9h, dans le bureau de Par Jupiter.
Youhou, les copains! Ohé!
Mais arrête de gueuler! Il y a que nous ici, ouais. Les bureaux ils sont vides, on se croira au siège du PS.
Ouais, on se demande même pourquoi il y a que nous d'ailleurs.
Ah, c'est vrai ça d'ailleurs, pourquoi?
Je sais pas, pour faire une émission de radio par exemple.
Voilà, hein, faut vraiment être belge pour nous faire bosser un 11 novembre quoi.
Bah oui, enfin, tu crois quoi, Charline? Que le 11 novembre on célèbre la valeur travail?
On célèbre la fin de la guerre quoi, le retour à la paix, donc oui. Le repos, la sieste, la grasse matinée, merde!
On célèbre surtout le fait d'être vivant quoi, d'être enfin libre, de pouvoir faire de l'humour librement, c'est QFD, allez au boulot.
Bon, ok, c'est qui l'invité?
C'est Yeli Yeli. Alors pour un album qui s'intitule La violence est mécanique.
Ah bah bravo, le jour de l'armistice, on célèbre la violence. Bah bravo,
bon,
super.
Bon bah ouais, je m'insurge, hein. Grève, sieste, grasse matinée, merde.
Ouais.
Voilà, si vous aviez pris 2 minutes pour écouter l'album, vous seriez submergé de honte.
Ah bon,
là,
il est si nul que ça l'album?
Mais non, hein, mais non, mais elle parle de nous là.
Ah
mais
oui,
non,
d'accord.
Parce qu'il est sublime cet album. C'est à la fois suave et rythmique et inondé de soleil, un petit peu comme dans un livre de
Bruno Le Maire.
D'Albert Camus, enfin, né en Algérie, et notre invité est d'origine kabyle.
Ah voilà. Bah, une étrangère, un jour de célébration nationale, bah, c'est de mieux en mieux.
Elle est près de Paris, Guillaume.
Oui,
bon, mais c'est vous, voilà, allez, t'as gagné, on va la faire ton émission.
Ah bah non, bah voilà, mais c'est ça votre problème, à vous les femmes, vous finissez toujours par céder.
Ouais, bah pour quelqu'un qui célèbre le retour à la paix, j'ai l'impression que tu cherches pas mal le conflit.
Hein. Bah ouais, non mais les filles, mais c'est comme ça, si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. Hein.
Dis Guillaume, c'est pas parce que c'est le jour de paix que t'es à l'abri de te prendre un tir de mortier.
Oh, ça va, je fais juste une petite remarque tout de suite, les grands mots là.
Ouais,
oh,
mais
oh.
La violence est mécanique, hein, Guillaume, n'oublie pas.
Oui,
hein.
Mais j'oublie pas, c'est Albert Camus, c'est ça? Ah oui, non, je suis bête, non, c'est l'autre, Bruno Le Maire.
Bonjour la France Inter et bienvenue chez le fabricant de blagues d'actualité, dont voici la devise, un court camarade aujourd'hui. Oui, court camarade, la cinquième vague est derrière toi.
Mais non.
Oui, si, bah, non. Oui, si. Ouais, si. Voici le sommaire. À la veille de la trêve hivernale, il y a 2 semaines, une centaine de personnes ont été expulsées d'un immeuble qu'elles occupaient depuis 4 ans à Ivry-sur-Seine, dont 30 enfants scolarisés dans le secteur. Bah ouais, mais ils étaient africains et tchétchènes aussi. Hein.
Salopeau.
Bah oui, voilà, c'est tout.
La langue des jeunes d'aujourd'hui est imprégnée d'arabe, mais pas particulièrement plus aujourd'hui qu'avant. Après l'anglais et l'italien, l'arabe est la 3e langue d'emprunt du français. Le français qui emprunte les mots, mais aussi la prononciation qui va avec, ou essaye d'emprunter.
Le problème avec l'arabe, c'est que c'était pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent... Oui, non, mais enfin, c'est joli. C'est joli.
La fête est de retour, et avec force pour certains qui se lâchent comme jamais en soirée, 1 an et demi de bamboche à rattraper, vite et fort, des fois que la 5e vague arracherait une nouvelle fois la prise de l'ampli, la fiesta, ça va le cul sec.
T'as quelque chose de fort, genre eau de vie, ou... On commence à s'emmerder ferme, là. Mais pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long.
Et sans transition, à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud.
Oui,
merci Charline. Et en l'honneur de notre invité, une équipe hautement métissée. Aucune contrée particulière n'a sa faveur. Il a, selon mes calculs, chroniqué des disques venant des 195 pays reconnus par l'ONU, à part le Liechtenstein, la Corée du Nord et le Vatican, mais on y croit tous. Bonjour Chewbacca.
Bonjour tout le monde.
De quoi est-ce que vous allez nous parler?
De notre invité. En vrai de vrai.
Pas mal.
Oui.
J'ai peur.
Dans son micro à lui, toutes les voix ont la parole, qu'importe l'âge, les origines et les croyances. Si vous appartenez à la catégorie les gens et que vous avez autant de sens de la nuance que lui, vous êtes de sa famille. Bonjour Guillaume Boris.
Bonjour Juliette, bonjour tout le monde. Moi je suis allé au salon du Made in France aujourd'hui pour parler d'Arnaud Montebourg avec de vraies analyses.
Avec ses paroles, il a un petit peu foiré.
Ouais. Thomas Legrand n'aurait pas dit mieux. C'est une foirade.
Enfin, son sens de l'humour n'est que métissage, de la satire sociale à l'absurde. Tout l'inspire, du fait politique à la bascule sociétale. Il ne respecte aucune orthodoxie, sauf bien sûr quand il s'agit de cuisiner la raclette, jamais de légumes. Bonjour Émeric Lontré.
Bonjour.
De quoi est-ce que vous allez nous parler?
Je sais pas trop encore, mais ça va être super.
Ça promet.
Et voici celle qui va enjailler ce 11 novembre. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Yeli Yeli.
Oui. Yes.
France Inter. Charline Van Macker. Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Yeli Yeli.
Merci.
Votre nouvel album s'intitule La violence est mécanique et on vous écoute en boucle sur cette antenne. On vous a découvert il y a quelque temps, nous en tout cas dans cette émission, on a beaucoup passé ce titre qu'on aime beaucoup.
Tandis que je frappe le sol, je frappe le ciel de ma voix.
Mais oui,
bien sûr.
C'est Yeli Yeli, bien sûr. Alors, vous êtes d'origine kabyle et tchèque aussi, c'est ça, par votre père?
Oui, absolument.
Vous habitez Paris, vous habitez dans le sud de la France aussi. Vous avez vécu plusieurs années en Suède, ai-je lu.
Vous c'est avez exact.
Fait une résidence aussi, une résidence artistique au Japon. Est-ce que c'est donc en musique que vous parvenez à rassembler tout cela, origines diverses et voyages?
Oui, je pense que c'est ultra lié et que je vis des choses, enfin en tout cas les choses que je vis, je les raconte en musique. Donc tous mes voyages intérieurs, mes voyages physiques, ouais. Mes voyages dans le temps.
Dans cet album, il y a des traces, par exemple, votre résidence au Japon il y a plus de 10 ans.
Je pense
cette rencontre avec ce pays,
il y aura toujours des réminiscences de cette résidence à la Villa Kujoyama. Et elle se révèle avec le temps et oui, il doit y en avoir dans l'album. Je saurais les décrire précisément, je ne saurais le faire, mais je sais qu'elles sont là.
Juliette.
Oui, il y a une chose qui nous a semblé paradoxale, c'est la suavité générale de l'album. Enfin, là, on vient d'entendre avec le morceau Tasusmi. Et le titre de l'album, La violence est mécanique. On s'attend pas à ce.
C'est vrai. Et ici encore, je crois que tout ne s'explique pas. Et surtout quand il est question d'art et de création, et je crois vraiment que ce titre s'est imposé à moi, donc j'ai pas envie de le décortiquer, de vous dire pourquoi. Je pense que la violence, elle est mécanique, elle est évidente et systématique à plein d'endroits de notre société, et c'est sorti comme ça au moment où j'ai dû trouver un titre. J'ai pas commencé l'album en me disant tiens, ça va être un album concept qui s'appellera comme ça. J'ai fait un album et puis à la fin j'ai dit il s'appellera comme ça.
Ok.
Voilà.
C'est paradoxe.
Je trouve que ça sonne hyper bien et en plus comme ça éveille la curiosité. Bah, ça reste un peu dans les têtes des gens, donc c'est plutôt pas mal.
C'est votre réponse à la violence, peut-être la manière de la canaliser.
Ouais, je crois.
Allongez-vous, on va en parler.
Ouais, je peux m'allonger.
À la base, il devait s'appeler bagarre.
Non, mais je crois aussi que je suis quelqu'un à la fois d'hyper doux et que j'ai une violence en moi, peut-être, docteur, je sais pas.
Alors, vous collaborez avec Pierce Faccini, qui est auteur, compositeur, interprète, qui est peintre. Il a d'ailleurs peint la pochette de votre album. Photographe anglais. C'est une rencontre importante, puisque c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans le milieu de la musique, Pierce Faccini. Rencontre qui vous a fait évoluer. Dans quel sens?
Alors oui, effectivement, c'est une rencontre ultra importante. On s'est rencontrés en 2015, il a fait mon dernier album, enfin il a produit et co-composé le dernier album et celui-ci. À celui-ci s'est ajouté Chloé, DJ Chloé, pour tous les sons électroniques. Et oui, c'est un excellent musicien et je me mouille pas trop en disant que c'est comme un mentor en fait pour moi. Ça a été un mentor vraiment fort. Il m'a appris énormément de choses, genre chanter sans micro en acoustique, et projette ta voix. On allait dans des chapelles, des Cévennes comme ça, jouer devant 200 personnes sans micro et sans ampli. Et j'avais jamais fait ça de ma vie. Et c'est une personne vraiment géniale.
Vous venez d'une famille de musiciens aussi.
Oui.
Famille d'origine mélangée, on l'a dit. Est-ce que musicalement dans la famille, chacun est parti dans des directions différentes, tant vous avez d'influence d'origine et de voyage.
Ouais, totalement.
Ouais.
En fait, j'avais 3 frères, il en reste 2 aujourd'hui. Mais on a grandi dans un tout petit appartement à Maison Alfort. Et on était dans des chambres assez minuscules qu'on partageait tous. Et du coup, la musique qu'on écoutait, les autres en profitaient, quoi. Et mes 2 grands frères qui étaient dans la chambre à côté de la mienne et de mon petit frère, et eux, pour l'un, adoraient le hip-hop et l'autre, la musique un peu métal, grunge. Et donc, ils se partageaient une chaîne. Et toute la journée, j'avais des sons, mais qui arrivaient, mais avec une fulgurance et une violence folle, là, pour le coup. Et puis moi, j'étais tranquille avec mon R&B dans mes oreilles, comme ça. En fait, c'était à la fois hyper énervant, mais aussi très, très inspirant, quoi.
Et vous êtes partie dans quelle veine, alors, particulièrement? Par rapport à eux?
Moi, j'ai commencé par, à contre-pied, quoi, prendre une guitare en bois et faire des chansons toutes
un
douces,
peu folk.
Hyper folk. Je me disais, c'est ça l'essence de la musique, il faut raconter des histoires et puis que ça fonctionne partout, quoi.
Juliette.
À propos de la pochette de votre album, donc vous dites que c'est Pierce Faccini qui l'a dessiné. Il se trouve qu'il y a une photo d'un panneau qui indique port de Tipaza.
Ouais.
Et je me suis posé la question parce qu'un des bouquins, semble-t-il assez connu de Camus, c'est Nos, où il parle de Tipaza. Et moi, c'est la seule fois où j'ai entendu parler de cette ville en Algérie. Et je voulais savoir si c'était ça qui vous l'avait inspiré. Ou notamment, il emploie les mots inondé, noir de soleil, inondé de soleil. Enfin, à un moment où il était, où il racontait beaucoup de sensualité par rapport à l'Algérie, à ses souvenirs algériens.
Pas du tout, mais c'est super intéressant parce qu'en fait j'avais jamais pensé à ça alors que j'ai lu ce livre. Mais en fait cette pochette c'est un collage. Et Pierce a peint un peu, mais il y a aussi des photos que je lui ai données d'un voyage que j'ai fait en Algérie avec mon grand frère et tous les deux on est allés à Tipaza. Et donc c'est, cette pancarte, ce panneau, je l'ai pris en photo pendant ce joli voyage.
Ben voilà, il dit, Camus, au printemps, Tipaza est habité par les dieux et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes.
C'est beau.
Oui, ouais, c'est pas mal.
Il fera une bonne carrière, ce Camus, vous dites.
C'est Albert.
Chewbacca, on va écouter un titre de Yéli Yéli, mais qui n'est pas sur cet album.
Non, c'est un de ceux avec lesquels j'ai découverte.
Ah voilà, très bien. C'est donc grâce à ce titre que peut-être vous êtes parmi nous aujourd'hui.
Ah ben, allons-y, on a beaucoup joué aussi celui-là.
Ce titre d'un précédent album de Yéli Yéli, car nous écouterons un extrait du nouvel album après la chronique de...
Après la chronique de... Chewbacca.
Ah bah bien sûr.
Et encore après, il y aura Aymeric Lomprey.
Voilà.
Mais au milieu, il va falloir qu'il y ait votre... celui-là, là.
Ah ouais.
Bien sûr. Que je vais déjà réquisitionner maintenant pour l'information. Soyez au taquet,
faites ça.
Eric Zemmour, pour qui j'ai du respect personnel. J'ai pu apprécier ses livres.
Le journal de presque 17h17.
Oh, arrête, c'est gênant. J'aime pas quand tu fais ça.
Et on commence par les titres, bien sûr.
Dans ce journal, on parlera bien sûr de la cinquième...
La cinquième vague, hein, ça y est, il reconfine tout. tout. Oh, j'en peux plus. Je tiens, vous avez des infos, Charline, c'est ça? Attendez, la cinquième vague, c'est foutu.
On parlera de la, mais non, de la cinquième puissance mondiale, j'allais dire.
Ça va, vous m'avez fait peur.
Calmez-vous. Ah, ouais, non, ça on va, parlera ça aussi de ce qui nous attend pour les semaines à venir.
Ah, ça y est, c'est le confinement, c'est le confinement. Non, je veux pas. Je suis sûr, vous avez des infos, vous les dites pas.
Non, on parlera des achats de Noël.
Ah, mais vous me faites peur avec votre truc. Ça va.
Oui. Et enfin, on reparlera de l'allocution présidentielle.
Ah, oui, non, là, c'est sûr, il n'y a aucune info là-dedans. Ça, c'est le vide. Okay. Et on commence par la politique.
Oui, le candidat LR Éric Ciotti plaide dans le Point pour un Guantanamo à la française.
Ouais, mais c'est un peu mou.
Mais oui, mais oui, Rico, ouais, il y a l'écartèlement, il y a le supplice de la roue. Ouais,
il devient laxiste, j'ai l'impression. Ouais. C'est limite bien pensant, ouais, ça. Il me déçoit là-dessus.
C'est mou. Allez, Rico. Interrogé hier sur RMC, le patron des chasseurs, Willy Schrein, était face à l'avocate Marianne Soubré et lui a expliqué ce que c'était la chasse selon lui.
Je vais t'expliquer ce que t'as pas compris.
En quoi c'est bien? Une pauvre bête.
Toi,
qui
tu
comme ça,
penses tu qu'on est là pour réguler?
Ah ben bah oui, mais c'est ce que
pas,
j'espère.
Mais t'as pas compris?
Ah bah alors si vous n'êtes pas là alors pour réguler, vous êtes
mais
là
t'as
pour
pas compris,
tuer,
t'as pas compris que nous c'est une passion?
Et ben alors,
t'as pas compris qu'on prend du plaisir dans l'acte de chasse?
À tuer.
Ça en fait partie. Moi, mon métier, c'est pas chasseur. Mais, j'en ai rien à foutre de réguler.
Quoi? C'est pas vrai. Vous voulez dire que les chasseurs, ils seraient pas les premiers écolos de France?
Bah non.
C'est pas possible, Charline, au nom de Dieu. Je peux pas y croire.
Vous en faites un peu trop, là, je crois.
Non, j'en fais trop, vous pensez?
On enchaîne. La sécurité d'Éric Zemmour a été renforcée par le ministère de l'Intérieur.
Eh ben d'accord. Bah, c'est qui paye? Eh ben, c'est le contribuable. Vous rendez compte, Charline, avec nos impôts, tout ça? C'est nos impôts.
Oh, vous pouvez pas le refaire parce que ça fait du bien.
Ça fait du bien. Oh, c'est pas le contribuable qui paye, vous vous rendez compte?
Ça fait du bien. Bien fou,
encore, vous,
encore, avec nos impôts. Allez, pour Noël, pour Noël, les Français vont dépenser en moyenne 282 €, soit moins qu'avant la crise sanitaire.
Oui, on profite de ce jour férié et que des enfants nous écoutent pour leur rappeler que le Père Noël n'est
pas. Non, mais ça va pas ou quoi?
Ah non, excusez-moi, mais j'ai vu qu'il y avait 44% des Français, hein, qui ont été convaincus par Macron.
Ouais.
Donc je me dis, c'est pas mal des fois de pas être tout le temps crédule, quoi.
Oui, bah oui, oui tôt, mais quoi. Non.
Non.
Allez,
bon,
en réaction à de récentes violences en Birmanie, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit profondément préoccupé.
Oui, alors en langage courant, profondément préoccupé, ça veut dire c'est chaud, démerdez-vous. Passons à présent à notre page horoscope. Ouais. Cancer, au niveau du travail, hein, vous allez tirer votre épingle.
Ah, non, attendez, là, ouais, vous faites quoi, là, Guillaume?
Ben, j'essaie de gagner du temps parce qu'on a un jour férié, il n'y a pas énormément d'actu. Gémeaux, côté amour, vous
non,
serez.
Non, ça va. On reprend le journal, s'il vous plaît. Parce que...
Bon, comme vous voulez, ouais, parce qu'il n'y a pas trop d'actu. Hein. Alors demain matin, ouais, il fera 7 degrés à Limoges avec le matinal.
Guillaume,
qu'est-ce qui. Bon, je vous fais pas le tirage de l'Euromillion.
Non, on enchaîne. J'ai un sujet technologie,
ah bon,
car YouTube s'apprête à masquer le compteur de Je n'aime pas sous ses vidéos.
Ah, bon, ben ça, c'est un coup de bol pour Émeric Lompré. Voilà. C'est gratos, mais il n'y a pas d'actu. Donc,
international, maintenant. En Inde, un parti lance son parfum électoral pour séduire les électeurs.
Ouais, j'imagine que c'est une campagne qui sent bon pour le candidat. Il n'y a pas d'actu, c'est férié.
Bon, on termine alors, peut-être.
Ben, oui.
Pour s'installer dans le Cotentin, un médecin réclame une prime, un logement, une voiture, ainsi qu'un revenu de 6 700 € garanti.
Ouais, en même temps, qui veut s'installer dans le Cotentin? Enfin, t'es coincé entre ville Cotentin et... c'est nul, quoi. C'est entre deux villes Cotentin.
Voilà. Ouais. Vous savez pas où se trouve le Cotentin, vous en êtes rendu compte un peu trop tard, et votre blague était déjà lancée.
Ça s'est entendu?
Oui.
Faut que je révise ma géographie avant les émissions.
Aussi.
Ouais, je comprends, ouais. On enchaîne?
Non, on arrête le massacre immédiatement, hein, peut-être. Bon. Voilà. On reviendra un jour pas férié, et ce sera meilleur, c'est tout. Merci, Guillaume. Yéli est en notre compagnie et on va aborder ce premier thème que vous nous avez soumis d'ailleurs. À la veille de la trêve hivernale débute le rituel des expulsions, une violence à laquelle nous nous sommes habitués finalement. Et il y a 2 semaines, la mairie communiste d'Ivry-sur-Seine a évacué un immeuble occupé depuis 4 ans par des réfugiés tchétchènes et africains, Afrique de l'Ouest, dont certains sont des réfugiés politiques. Et d'autres ont leurs enfants scolarisés dans le secteur. Des réfugiés politiques expulsés donc par un autre système politique. En résumé...
On est embêté avec votre histoire du foyer africain. Que vous expulsez, et nous on doit loger.
Ah oui, je sais bien que c'est un peu une épine dans le pied, mais vous savez, je fais pas ça par plaisir, hein. C'est une question de sécurité.
Mais mettez-vous à ma place, le Gorg. C'est pas un hôtel ou un garni que vous faites fermer. Je me retrouve avec 500 gars sur les bras.
Ça, c'est pas ma responsabilité directe.
Et surtout, il y a la presse. Enfin, une expulsion noire, imaginez les manchottes. Cette histoire, elle va être récupérée politiquement. Mais on ne sera pas épargné, vous non plus.
Enfin, moi, je ne suis à aucun parti. Moi, la seule carte que je possède, c'est celle de la prévention et de la protection sanitaire. vous ferez quand même remarquer que politiquement, comme vous dites, vous êtes plutôt gagnant. Parce que les Africains ne votent pas, alors que ceux que vous allez mettre à leur place, eux, ils vont voter pour vous, non ?
Vous êtes simpliste, mon vieux. Où est-ce que vous allez chercher des histoires pareilles ?
Jacques Villeray et Philippe Lodenbach dans Black Micmac, film de Thomas Gilou qui date de 1986, donc rien n'a changé. Yali, vous avez proposé de mettre cette histoire en lumière, j'imagine pour l'injustice, bien sûr, mais aussi parce que vous êtes indirectement en contact avec... avec ses habitants, ses gens, ses réfugiés, des bénévoles.
En fait, j'ai entendu parler de cette expulsion parce que je suis très proche d'une prof de collège à Ivry-sur-Seine qui m'a relaté cette histoire avec beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de détails. Et cette prof, en fait, a des élèves qui étaient logés dans ce bâtiment qui a été vidé. Et donc, depuis le 26 octobre, il y a des personnes qui vivent dans des conditions absolument insalubres dans un gymnase d'Ivry-sur-Seine. Mmh. Il y a des femmes, des enfants, des adultes en situation de handicap à qui aucune solution appropriée n'est proposée. Et après, plus généralement, je voulais aborder ce sujet parce que j'avais envie de dire que tout se fait toujours au détriment des populations les plus vulnérables, quoi, et qu'il y a une indécence folle de jeter les gens chez eux à la veille de la trêve hivernale. Mmh. Voilà.
Et donc cette professeur et donc et tous les bénévoles aussi qui aident ces gens depuis parfois jusque 4 ans, c'est aussi pour eux 4 ans de lutte qui tombent à l'eau comme ça d'un coup.
Exactement.
avec des flics qui frappent à la porte un matin et puis voilà.
C'est ça. Et apparemment il y avait une énorme mobilisation policière pour l'évacuation et ça s'est pas fait dans la douceur pour le coup.
Alors c'est une histoire qui est relatée notamment dans Le Parisien aujourd'hui en France, mais dans les pages Paris évidemment, mais qui finalement a peu d'écho. Si vous ne nous l'aviez pas soumis, moi j'étais passée à côté aussi.
Ouais, je sais. Ouais. Donc, il y a très très peu de couverture médiatique sur ce sujet.
Parce qu'on on s'habitue finalement, vous trouvez ?
Bien sûr qu'on s'habitue. Et après, ça fait partie d'un système global. On a une spéculation immobilière... complètement débridé. Et les dessous de cette histoire, c'est ça. Hein, c'est un immeuble qui va être récupéré pour faire des logements qu'on va vendre très cher, en fait.
Et c'est exactement l'extrait qu'on a entendu de Black Mac en 86.
Bisous Stéphane Plaza.
Il pourrait monter une fondation.
Hein, ouais, ce serait pas mal,
serait
en fait.
Pas mal, mais voilà.
Qu'on en
Plaza
parle.
Et voyez. Pierres,
ouais. Main dans la main.
Ouais. Vous voyez, il y a des solutions dans cette émission. Merci. Heureusement qu'il y a Yeli. On en revient à votre musique, tiens, d'ailleurs, avec Djoubaka qui est parmi nous.
Bah oui, on va causer d'un immeuble parce qu'il y a presque un an, Yeli mettait en ligne le clip de sa chanson Liberté, Liberté. On y voyait un bâtiment de banlieue, un peu moche, et pourtant on y voit aussi l'insouciance des gamins qui jouent à se faire peur et qui rigolent de mourir pour de faux, et ça c'est joli. Et ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance. Alors comme je suis pas d'une première fraîcheur, ces souvenirs prennent naissance à la fin des années 70. Alors quand on montait les escaliers pour aller chercher un pote qui habitait tout en haut de la tour, presque à chaque étage on entendait des musiques qui passaient pas à la radio. Des mélodies d'autres pays, les sons glissaient comme ça sous les portes et se répondaient dans les cages d'escaliers. Alors ça chantait dans toutes les langues, hein. On passait du fado portugais à la rumba congolaise sans jamais prendre l'avion, et ça aussi, bah c'était joli. Et avec mes potes, même si on n'avait pas les mêmes gueules, on faisait pas la différence, nous. Mais quand on débarquait dans les familles et que je lorgnais les pochettes de disques, plus souvent, à vrai dire, des cassettes, je voyais bien que les stars du hit parade, bah c'était pas les mêmes pour tout le monde. Et au troisième étage de la Sourcée, je m'en souviens bien, il y avait une dame qui écoutait à fond les potards, on se mettait derrière sa lourde, et elle chantait en même temps, alors nous on se marrait, et puis souvent, après la musique, on l'entendait pleurer derrière sa porte. Et on quittait son étage en essayant de ne pas faire de bruit. Bien sûr, on n'y arrivait jamais. On faisait du bruit. Bonjour l'intimité. Alors, comme pour une photo, un objet, ces 10 ramenaient tout ce petit monde à leurs racines, à un pays qu'il ou elle n'avait pas forcément quitté sans regret. C'était le lien qui faisait qu'on n'oubliait pas d'où on venait. Et beaucoup de mes amis de l'époque qui avaient grandi ou qui étaient nés ici ont redécouvert en fait la mélodie familiale sur le tard. C'était aussi un moyen de renouveler les sujets de causerie avec les anciens. Et ce jukebox permanent sur 10 étages était la voix de celles et de ceux qui ne parlaient pas de leur passé et qui voulaient surtout pas qu'on leur en parle le plus souvent. Yeli a fait le voyage inverse, direction la Kabylie. Parce qu'il faut bien comprendre à un moment d'où on vient, ce qui nous a forgé de façon presque invisible. Et autant se le dire tout de suite, c'est pas forcément une évidence. Elle fait partie de celles qui ont grandi, en fait, le cul entre deux chaises, entre plusieurs cultures, plusieurs pays. Et c'est comme ça, on ne l'a pas choisi. Et à un moment, faut bien ouvrir la boîte de Pandore familiale, parce que cet héritage, ben, c'est aussi celui des Minots. Alors, ce qui a été longtemps fantasmé peut décevoir, mais en tout cas, hein, ça nourrit l'âme. Alors, si on entend ces textes comme un puzzle, c'est moi qui choisis la définition, donc ça va. Donc voilà pour moi ce que dit Yeli Yeli. Elle écrit donc que la langue est un butin de guerre, que quand elle ne sait plus rien, elle, Yeli Yeli, une douce musique revient. Et puis, ailleurs, elle raconte aussi que c'est déraciné, ces humains entre deux mondes n'ont finalement nulle part retourné. Et les thématiques de ce disque sont universelles. Cette recherche des racines, ben, ça se rappelle à nous au moins une fois dans nos vies. Elle raconte aussi le chemin à faire pour retrouver un monde que l'on ne connaît pas, qu'on a imaginé, parfois idolâtré, avant de le rencontrer. Et parfois, ben, la déception, elle peut être cruelle. Il arrive même, en fait, qu'on passe à côté de l'essentiel, profiter de cette chance qui nous est donnée, en fait, de remettre les pieds sur la même terre que celle qu'ont foulé nos grands-parents. Alors bon, ce nouveau disque, La violence est mécanique. Yeli Yeli s'est donc accoquiné avec Pierce Faccini, qui est entre autres un italo-anglais qui a grandi ici mais qui a étudié en Angleterre et avant de poser ses basques dans les Cévennes. Et puis il y a Chloé, une productrice de son électronique qui a beaucoup travaillé avec le pulp et des boîtes à Paris et qui vend Spink, etc. et qui est une bonne manipuleuse de disques sur platine. Et ça aussi, le mélange artistique de cet album, ce cocktail de bon aloi. Les souvenirs sont des ricochets qui se partagent et on écoute Liberté, Liberté.
Liberté, liberté, liberté.
c'était Liberté, Liberté. Quand même, c'est ça. Vous l'avez reconnu.
Là, on comprend le titre.
Hein, bien sûr.
De Yéli. Des fois, ils ont du mal.
Extrait de cet album, La violence est mécanique, avec Yéli Yéli qui est avec nous. Et j'en profite, Djoubaka, déjà, je vous remercie pour cette chronique. Et puis, je signale aux auditeurs que vous avez un compte Instagram que vous nourrissez abondamment. Le compte Instagram, c'est Mr. Djoub, Mr. Underscore, et puis Djoub, D-J-U-B. Ouais, on peut y voir vos collages, on peut y voir votre gramophone, etc.
Ouais, ouais. Voilà. Moi, je suis abonné.
Hein. Ah, voilà. Yéli est abonné, bien sûr. Abonnez-vous aussi aux chroniques de Guillaume Meurice, bien sûr.
Ah oui, oui, oui. En ce jour de commémoration, je voudrais rendre un dernier hommage au soldat Arnaud Montebourg, tombé au combat. Sa carrière politique a fait ce qu'on appelle dans le jargon une Ayrton Senna. Hein, il y avait un virage à gauche, bah, il a loupé. Il a voulu taxer les virements des immigrés et des pauvres. Donc, clairement, voilà, l'étape d'après, c'était une taxe sur les temps de Quechua et une amende pour les gens qui se lavent pas. Voilà. Donc, Emmerich était vraiment à deux doigts d'une expulsion en charter vers le 8-istan. S'en est suivi un psychodrame avec les jeunes avec Montebourg. Ils ont pleuré comme ça des larmes de caviar. Ils se sont barrés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que s'est créé un autre collectif composé de résistants aux dissidents des jeunes avec Montebourg. Donc, sans les anciens jeunes avec Montebourg, qui sont pas non plus les vieux avec Montebourg. Vous suivez ou pas le truc? Vous voyez Game of Thrones?
Non.
C'est pareil. Même histoire. Jon Snow, c'est Montebourg. Et les dragons sont remplacés par un melon géant. Mais aujourd'hui, c'est le Made in France qui est en deuil. Oui, parce que Arnaud Montebourg, c'était le Made in France. Et aujourd'hui, c'était quoi l'ouverture du salon? Made in France, parce que des fois, bah, la vie, c'est bien foutu. Pour vous montrer qu'on est bien en France, au salon du Made in France, voilà ce qu'on y trouve.
Bah, Baby Pétanque, c'est la petite sœur, on va dire, du baby foot, mais sur le thème de la pétanque, qui est le jeu de l'apéro.
Est-ce que du coup, il y a des baby Ricard des
baby... Ah bah, on peut faire des baby bières, des baby Ricard, prendre des baby cuites.
Voilà, tout ce que vous connaissez très bien, baby Juliette, voilà, avec une baby gueule de bois le lendemain, une baby MST qui suit. Enfin, vous connaissez le truc, donc Made in France. Alors, à la Baby Pétanque, qu'est-ce qu'on pense de Montebourg?
Joker, moi je suis apéro, baby pétanque, on peut parler de tous les sujets, après chacun ses avis et ses idées.
Ah mais là vous avez paumé le champion du Made in France quand même.
Pour moi le champion ce sera le meilleur qui viendra jouer, c'est important dans le vue des présidentielles de savoir qui fait les meilleurs carreaux et qui est le meilleur pointeur.
Ah le meilleur pointeur, bah a priori c'était DSK, hein, bon ça s'est loupé, il pourrait y avoir PPDA s'il se lance en politique, Zemmour aussi, Nicolas Hulot s'y revient, enfin il y a du monde. Mais c'est pas le sujet, le sujet c'est bien Arnaud Montebourg, continuons.
Montebourg, bah, je crois qu'il est dynamique, il essaye de faire des choses.
Est-ce qu'il est dynamique plutôt du côté de l'extrême droite pour l'instant?
Je sais pas dans quelle direction il part, moi c'est vrai que ses choix sont ses choix. Je dirais que c'était osé. Après, la vie, c'est savoir remonter en pédale.
Ben voilà, il va falloir qu'il remonte en pédale, hein, comme le veut l'expression qu'on connaissait pas. Tiens, dis-donc, voilà. Ce qui semble qu'il les ait perdus, là, les pédales Arnaud. Ou alors, il va se lancer dans le commerce de la semoule, parce que justement, il pédale dedans. Enfin, bon, il y a un business à faire, mais business français, hein, bien sûr, je vous rappelle, comme ce fabricant, par exemple, de chaussettes.
À titre perso, comme à titre pro, je suis totalement apolitique.
Apolitique, est-ce que ça veut pas dire de droite, ça?
Je ne pense pas et j'espère pas, ni de gauche.
Bon alors s'il passe, vous lui offrirez les chaussettes quand même quoi.
Je montrerai et je lui demanderai si ça l'intéresse d'en acheter, ouais. On a des grandes tailles.
Oui, il faut des très grandes tailles, hein, parce que les chevilles d'Arnaud, bon bah c'est quelque chose, on les connaît bien, hein. Faut vraiment des chaussettes taillées dans un parachute. Faut que ça tienne parce qu'Arnaud, il a même pas reconnu avoir dit de la merde, hein. Il a dit « je me suis mal fait comprendre ». Donc voilà, on est vraiment sur de la bonne enflure. Je parle des chevilles, hein, toujours des chevilles qui enflent. D'ailleurs ce monsieur, il était pas fabricant de chaussettes, selon lui il était...
Habilleur de cheville, parce que quand on demande à quoi ça sert une chaussette, bah souvent c'est pour tenir chaud, pas forcément, c'est aussi pour valoriser une cheville.
Vous êtes valorisateur de cheville en quelque sorte.
J'upgrade.
Voilà, un upgradeur de cheville, parce qu'au salon Made in France, on speak English, hein, bien sûr, ça c'est vraiment la cohérence. C'est comme quand Eric Ciotti boit un kawa. Voilà, pareil, c'est la cohérence. Quand Montebourg, il parle de remontada, en bon héritier de Juan Raúl et de Léon Blumito. Alors, la solution la plus simple, évidemment, on la connaît, ça serait de lui dire d'aller se faire cuire le cul. Arnaud Montebourg, évidemment, bah figurez-vous, ça tombe bien, j'ai trouvé quoi?
Alors, c'est de la plancha, bien de chez nous, français, nous on achète, quand on achète juste les plaques d'inox, les plaques d'acier, ouais. On découpe, on plie, on soude, on monte, et tout ça est fait par une petite PME de 20 personnes.
Si on s'assoit dessus, on peut vraiment se faire cuire le cul?
L'idée, c'est vraiment de se faire cuire le cul, mais français.
Voilà, français, moi, je pense que c'est ça qu'il lui faut. Voilà, là, on est bon, voyons, on peut trouver un terrain d'entente. C'est comme ça qu'on apaise la société, qu'on adoucit le débat, comme un petit peu avec du miel. Et vous me voyez venir, parce que c'est vrai qu'Arnaud Montebourg, ben voilà, c'est le miel, il est apiculteur. Il a une entreprise qui s'appelle Bleu Blanc Ruche. Et il y avait qui au salon des Made in France? Eh bien, il y avait l'entreprise Bleu Blanc Ruche.
Nous, on vend du miel, on le laisse dans sa panade. Hein. Il s'en occupe, il fait ça très bien.
Mais quand vous avez entendu ça, est-ce que vous avez dit oh là là?
Non, je me suis dit on verra plus tard. Hein. Vous savez, on travaille avec Arnaud Montebourg. Quand on travaille avec Arnaud Montebourg, on est toujours prêt à tout. Tout peut arriver.
Voilà, tout peut arriver. C'est ça le pire, c'est que c'est peut-être même pas fini pour lui. En fait, le débat public est tellement pourri que ça se trouve, il va revenir tranquillou, comme si de rien n'était. C'est ça, la Made in France.
Merci Guillaume d'avoir arpenté les
couloirs
du salon. Vous avez musardé au salon Made in France. Oui. Yéli Yéli est avec nous et Juliette Arnoux, vous avez un thème à soumettre à notre invité.
Quelle est l'importance de la langue arabe dans la langue française? Cette question innocente, risquant de faire irruption au repas de famille de la Noël, peut-être serait-il sage de s'informer. Si les plus jeunes par l'arabe contribuent à importer un nouveau vocabulaire, en réalité, l'arabe est là depuis longtemps, et pas seulement l'arabe, d'autres langues également. Le parler en général, c'est toujours une affaire organique.
A, P, Pani.
C'est quoi Pani?
Un mot créole.
N'importe quoi, un mot créole, c'est pas du français.
D'abord, on ne dit pas n'importe quoi, sa grand-mère. Et parking, c'est français?
Non, mais c'est rentré dans la langue française.
Si les Anglais ont fait rentrer parking dans le dictionnaire, je peux bien faire rentrer panier dans le Scrabble.
Elle a bien raison, Firmin Richards, qui était dans le film Première étoile de Lucien Jean-Baptiste. Alors, on a appris que, en gros, l'arrivée des mots arabes dans la langue française, ça commence avec les croisades, et qu'on a environ 500 mots d'origine arabe, voire tout à fait arabe, qui... participe à la langue française, donc ça va de bled, que à peu près tout le monde connaît, à somme, qu'on pratique beaucoup par ici.
Oui. On a des raisons, je crois qu'on a des bonnes raisons.
C'est pour ça que c'est belge, moi, en fait, comme mot, mais non. D'accord.
Lesquels avez-vous vu arriver, vous, de votre génération?
De ma génération, je sais pas, mais très récemment, il y a effectivement il y a le somme, la hesse.
Ah oui.
C'est quoi la hesse?
La misère.
Ok.
Zbeul, vous connaissez?
Zbeul, je l'utilise tout le temps.
Alors, j'ai une question par rapport à
ça. Ça veut dire quoi?
Voilà, c'est ça.
En fait, ça fait zbeul.
Est-ce que vous avez pas l'impression que souvent, les jeunes gens, c'est parce que aussi, c'est des sonorités qui les amusent.
Mais c'est super.
Vous avez raté, ça veut dire quoi?
Le bordel. C'est le bordel. Le bazar.
Le brol.
Le foutoir.
Le chaos.
Ouais. Et effectivement, c'est super amusant à utiliser parce que ça fait découvrir des nouvelles sensations dans la bouche aussi quand on le dit.
Exactement. Par exemple, quand on dit psartek.
Ouais, psartek.
Pour dire félicitations, bravo, ça fait jouer psartek. Des sons dans la gorge ouais. qu'on n'a pas en français.
Et c'est ultra ludique. Et c'est la musicienne et la chanteuse en moi qui parle, hein, vraiment. Donc après, de toute façon, les langues, c'est on parlait tout à l'heure de la nourriture et de la musique. C'est comme les langues, c'est comme la nourriture et la musique et les oiseaux. Ça ignore les frontières et les crispations identitaires en fait. Et c'est ça qui est sublime dans les langues vivantes.
Vivantes, comme le kabyle que vous utilisez en partie.
Ouais.
Pour les paroles, mais vous parlez pas à Kabyle.
Non, j'avoue.
Vous me faites un quiz. Petit yaourt.
Je suis un petit yaourt Kabyle, bien de chez moi. Mais voilà, j'avance en fait. Et je fais ce que je peux.
Mais vous avez, par exemple, vous avez demandé dans votre famille si quelqu'un pouvait relever si au niveau de la prononciation, de l'accent, c'était à peu près correct ou de la syntaxe.
Ouais,
ou non, vous l'avez fait comme ça.
En vrai, j'avais un... j'avais un coach à distance en Kabylie et il m'envoyait des MP3 et je lui envoyais des MP3. Il me disait non, là tu dois dire comme ça. Yallek, répète après moi. Et donc il laissait un peu de silence pour que je fasse mes exercices et on a travaillé comme ça à distance pendant des mois et Mokhtar. Et c'était un exercice hyper drôle. Après, je maîtrise pas du tout la langue kabyle. Et je sais pas si je la maîtriserai un jour. Je pense qu'il faudrait que j'aille là-bas et que j'y reste un peu longtemps pour commencer à parler, en fait.
Mais est-ce que vous avez gardé quelques mots? Est-ce qu'il y a quelques mots que vous avez appris, que vous allez garder avec vous?
Il y a un mot que ma mère utilisait pour parler à mes frères quand ils étaient un peu énervants. Arioul.
Oh, mon père
il m'appelait comme ça.
C'est pas vrai. C'est le, en arabe, on dit Hmar pour dire l'âne, mais en berbère et en kabyle, on dit Arioul.
Exactement, je le trouve trop mignon.
C'est très très joli.
Ouais, c'est hyper joli.
Ah, on m'a dit qu'on a un appel de l'Académie française demandant de cesser immédiatement ce questionnaire qui va beaucoup 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 trop loin.
Le mélange de langues que vous faites dans l'album, que ce soit le français, l'anglais ou le kabyle, ça fait que vous êtes quand même un peu mélangé au niveau des langues. Est-ce que vous rêvez dans d'autres langues? Est-ce que vous en êtes arrivé au point où d'autres langues s'immiscent dans vos
Absolument.
Rêves?
Absolument. En fait, je crois qu'on l'a mentionné tout à l'heure, j'ai vécu 7 ans en Suède. Et donc, je parlais vraiment couramment suédois. Et je réfléchissais et je rêvais en suédois au bout d'un moment, effectivement.
Et comment est-ce qu'on dit bazar alors en suédois? Chris Prolls?
Je ne me souviens pas, en fait. Je suis désolée.
Bon, bah, réfléchissez, on va peut-être le temps de la chronique d'Emeric Lomprey et on verra derrière ce que ça fait. N'est-ce pas, Emeric?
Oui, bonjour à tous. Vous allez bien?
Oui.
J'ai rien entendu.
Oui.
Ah bon? Vous allez bien?
Bah ouais, carrément.
Vous êtes content de bosser un jour férié, vous?
Oui.
Savez, je commence à avoir un petit peu... Je commence à avoir des doutes sur le fait que vous soyez vraiment de gauche, quand même. Hein, tu sais, comme quand Charline a rempli sa gourde avec une bouteille d'eau, hein, ou quand Guillaume, il touche son salaire. Et qu'après, à la cantine, pendant 2 semaines, on est obligé de manger des pâtes. Après, tout le monde est là. Encore des pâtes? Bah ouais, Guillaume, il a fait 4 chroniques cette semaine. Ouais, mais la semaine dernière, il y avait quand même du gruyère. Ouais, mais là, il a fait une matinale aussi. Allez, la chronique. Bon, alors... J'ai compté pour le moment, il y a 8 candidats de gauche pour la présidentielle. 9 avec Jadot. On va dire 8 de gauche alors. Ouais. C'est trop, ils vont perdre. Il y a Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Anas Kazib, Fania Roustel et Éric Drouet. Alors je sais pas ce qui leur passe par la tête les gars. Hein, peut-être qu'ils pensent qu'au plus ils sont nombreux, au plus ils vont gagner. C'est une élection, c'est pas une bagarre de rue les gars. Hein. Et puis vous imaginez la bagarre, Montebourg il serait là. On dit qu'on touche pas mes cheveux, on dit qu'on touche pas mes cheveux. Mélenchon il serait là, en train de péter un poteau avec son tibia. Après Nathalie Arthaud et Anne Hidalgo. Elle s'enfuit en vélib parce que c'est des filles. Après la police arrive, ils embarquent personne sauf Anas Kazib. Et là il y a Fabien Roussel qui crie merci messieurs les policiers. Non mais 7 candidats c'est trop. Ouais je viens d'enlever Montebourg, hein, des candidats de gauche. Bah parce que voilà, hein, je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de taxer les transferts d'argent des immigrés là. Et il s'est complètement fait démasquer là Montebourg, la main dans le sac, tu sais, à faire croire à tout le monde qu'il était de gauche avec sa tête de mec qui fait du voilier. Et là, bim, tac. Comme moi quand j'étais surpris par mon ex. Tu es fidèle, Emeric? Oui, oui. Je parle pas à vous, madame. Non, mais comment voulez-vous que la gauche gagne avec 6 candidats? Ouais, là, je viens d'enlever Hidalgo, là. Hidalgo démission! Non, mais dans Ambition Intime, elle a dit qu'elle s'entendait bien avec Sarkozy. Et ça, c'est éliminatoire direct. Hein. Comme quand on dit, non, mais ça va, j'ai fait juste une fois une compète de badminton. Tu dégages, t'es plus mon pote. Non, mais hors de question qu'on se retrouve avec un second tour droite, droite, droite. Hein. Je veux pas que le 24 avril, on vienne me dire, Emeric, tu préfères que je fasse caca sur ton canapé ou sur la télécommande? Bah, aucun des deux. Mais comment vous êtes rentré chez moi? Et quel est le rapport avec les élections présidentielles? Et pourquoi vous avez cette grande cape? Non, je veux pas. Attendez, je crois que je suis en train de lire la V1 de ma chronique. Ouais. Alors.
C'est rigolo. Gardez la prochaine fois. Vraiment, on est curieux. Maintenant, on est curieux.
De finir la chronique. Oui, non, mais si là, en plus, ça n'est pas important. Si la gauche veut gagner en 2022, il faut choisir un seul candidat. Et le seul à qui on peut avoir confiance, c'est qui? C'est Philippe Poutou. Ouais. Bah oui, quand tu tapes Poutou scandale sur Google, le seul résultat c'est quel scandale, Poutou a encore perdu. Mais, non mais il nous fera jamais de mal, Philippe, c'est vrai. Imaginons la dette elle explose, bah lui dira ah vous en faites pas, je vais faire un crédit CTLM, je vais tout payer. Et après s'il y a une pandémie, il dira venez vous confiner chez moi, j'ai du café, un docteur Maboule et des serviettes chaudes. Philippe c'est un vrai perdant, c'est le seul qui veut pas gagner. Hein, bah quand tu vas en chemisette avec une glacière dans les débats télé, c'est un message très très fort. Ouvrez les yeux, c'est la crise, on est au chômage, la planète est foutue, on est exploité, cessez de voter pour des gagnants, vous êtes des losers, choisissez un président qui vous ressemble. Allez la gauche, en 2022, on se rassemble derrière Philippe Poutou, le président des perdants. Merci d'avoir écouté.
Merci Éric Lomprey.
De rien.
Faudrait qu'il vole une clé de 12 ou un truc.
Qu'il ait un petit scandale, une polémique.
Il vole une clé de 12 et puis il se fait prendre la main dans le sac et là, bam, et là il monte à 0,6%.
Sinon c'est pas un vrai politique.
Enfin, bon,
c'est devenu un vrai politique parce qu'il avait dit qu'il se présenterait que 2 fois. Mmh. Et là, c'est la 3e. Donc ça y est, maintenant, il est transgressif. C'est bon.
T'es en train de critiquer Philippe Poutou?
Un peu.
Merci. Émeric Lomprey. qu'on peut réécouter en podcast, en spray ou en tablette, bien sûr. Yéli, on va aborder ce dernier thème avec vous. La bamboche, il paraît que c'est reparti. Les Français se lâchent en soirée, profitant de l'accalmie sanitaire. Ouais, profitez-en, les gars. Ils profitent d'autant plus qu'on est conscient que ça ne peut de pas durer. C'est vrai qu'en ce moment, on casse 50 personnes dans 60 mètres carrés. Les discothèques font le plein, semble-t-il. Et ça se termine plus vite en vrille aussi, apparemment. Mais oui.
Vous connaissez pas ce Paris?
Ah non, désolé, non.
Mais la semaine dernière, chez Denise. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, pas du tout. Je connais pas de Denise.
La boîte coquine, dans les Halles. Ma femme s'appelle Cathy. Portait un string bleu.
Bien sûr que ça me dit rien du tout, hein. Il doit y avoir une erreur.
Ah d'accord, je vois le genre. Les potes dans les boîtes à partout, mais devant ta copine, tu connais plus personne. Hein.
Un extrait de Grosse Fatigue, le film de Michel Blanc, avec Michel Blanc et Vincent Grasse, ici, dans cet extrait. L'Obs fait paraître aujourd'hui un article intitulé « Le nouveau sens de la fête », qui nous explique qu'il y a un petit lâchage général, un petit craquage même, où on y va à double dose. Yéli, quel goût ont les concerts depuis la reprise? Est-ce que c'est un peu plus fort, plus précieux qu'avant? On vous a entendu jouer, notamment ici à France Inter pour la journée spéciale des femmes afghanes. J'imagine que vous avez eu l'occasion de jouer depuis.
Oui, j'ai eu l'occasion de jouer. Effectivement, c'est un plaisir retrouvé et décuplé, quoi. On est juste hyper content de pouvoir retrouver ça, le spectacle vivant et cette communion avec le public. Juste le fait de vivre des choses ensemble, en fait.
Ouais. Et est-ce que vous refaites la fête?
Énormément.
Ah oui?
Ouais. Et surtout ces derniers temps. Et du coup, c'est un sujet qui me parle pas mal, quoi.
Ouais.
Et mes dernières fêtes, c'était un peu genre comme le Berlin des années 20.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, la fin est proche, ça donc on donne tout, quoi. En fait, on se lâche, quoi.
Ouais,
on a vu qu'on a hyper peur de ce qui nous attend, de ce qui va se passer, à plein de niveaux. C'est assez décadent, quoi.
Donc vous confirmez cet article de l'Obs qui dit on y va un petit peu plus fort qu'avant, quoi.
Ouais.
On se lâche.
Ouais. C'est vrai.
On multiplie les rappels en teuf, quoi. C'est ouais. double dose.
C'est vrai. Il y a peut-être des témoignages autour de cette table, Émeric Lompré.
C'est-à-dire.
La voix de Macron, c'était peut-être ça, il avait fait la bamboche la veille aussi, avec sa voix de Barry White.
C'est vrai, ouais. C'est la preuve que c'est un besoin viscéral et que peut-être, on n'avait pas, évidemment, avec les gestes barrières, etc., c'était compliqué, mais les autorités, elles n'ont pas vraiment quand même tenu compte qu'on avait ce besoin viscéral et qu'on en était complètement coupé pendant un an et demi.
Non, absolument pas. Et quand c'était impossible de faire la fête, moi je la faisais toute seule dans ma tête, en fait. Je faisais des joggings en écoutant Madonna et en dansant dans les champs, comme une zinzin, quoi.
Ouais.
Parce que en fait, on a besoin de ça. Uh-huh. On a besoin de vivre, d'écouter de la musique, de sentir des choses dans nos corps.
Ouais. Juliette, vous l'observez aussi en bas de chez vous?
Oui, moi je l'observe en bas de chez moi. Les jeunes, je vous dis, calmez-vous. Pas sous mes fenêtres.
Vous m'avez dit dès le dimanche soir, le lundi, le mardi, ça
va. Oui, moi je suis dans un quartier qui est un quartier un petit peu festif. Et là, on est passé au rythme de tous les soirs de la semaine. Il n'y a plus de soirs d'arrêt.
À chaque fois, on te dit rejoins-nous.
Mais Paris est une fête, Paris est une fête.
Ouais, c'est ça.
Alors, on devrait savoir.
Tu cries sur les gens, ils te disent non, mais descends. Tu es vieille, tu ne descends pas.
La bamboche, c'est reparti. Un petit questionnaire de Parjupi Proust pour notre invité Yéli avec Juliette.
Plaisir. Sur l'échelle de la chanteuse française d'origine kabyle la plus célèbre, 10 étant Isabelle Adjani, 0 étant Gérald Darmanin, parce qu'il n'est pas trop chanteuse, il est plutôt ministre et c'est bien dommage. À combien vous situez-vous?
Je dirais 7.
Ouais, c'est bien.
C'est pas mal, ça.
Ouais, c'est bien. Vous venez, Yéli, vous préféreriez faire un duo avec Duran Duran ou avec Enzo Enzo?
Duran Duran.
Bah, quand même.
Miu Miu, ouais.
J'étais sur Michou Michou, moi.
Mon Dieu, Michou Michou.
Vous aviez un autre pseudo qui était Milkimi. Donc, ensuite, Yéli, est-ce que c'est tout pour éviter Émilie, qui vous vient peut-être d'Émilie Jolie?
Ouais, absolument. Du coup, j'essaye d'enterrer ce prénom, mais vous ne m'y aidez pas, là.
Non, pour le coup. J'ai honte, je le retire. C'est bon, personne n'écoute. Votre papa est tchèque, votre maman est algérienne, je ne vous demanderai pas si vous préférez papa ou maman, c'est mal élevé, mais quand même. Milan Kundera ou Zinedine Zidane?
Wow, c'est impossible, ça.
Ah,
ça,
si.
C'est pas une question possible. Non.
Oh, bah allez.
Je sais pas, je vais les fusionner comme ça.
Milan Zidane.
Milan Zidane. Ouais.
Zinedine Kundera.
Ah, ça c'est joli.
Hyper beau.
Si si, mettons, au mois de mai prochain, le résultat des élections était un petit peu compliqué, je fais mise à dessein. Est-ce que vous vous exilez plutôt en Suède, au Japon ou dans les Cévennes?
Suède, je crois.
Pourquoi? Pour la beauté?
Ouais.
Si on devait réaliser un biopic sur votre vie, qui jouerait votre rôle et surtout qui écrirait la bande-son?
Waouh. Alors, dans mon rôle, il y aurait Gina Rowlands.
Trop bien.
Mais bon, voilà, Gina Rowlands, voilà, on imagine bien, peut-être en brune comme ça. Et la bande son, Tchaïkovski.
Waouh.
Bam. Ça claque. C'était Yeli Yeli avec nous. Merci beaucoup. On était ravis de faire votre connaissance car on vous écoute avec bonheur et on recommande votre album magnifique qui s'intitule La violence est mécanique. Merci les amis. Je vous dis à demain. Nous serons là en direct car nous ne faisons pas le pont. Flemme. Trop long à construire un pont entre deux continents, l'humour et l'actualité.
Bon, ça bosse, hein.
Ça bosse, pas non. Ça bosse fort.
Parce qu'il y avait bosse fort. Ah, non. Non, 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 non.